Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, on était justement hier en pleine commission quand le commissaire à l'UPAC a publié sa décision, c'est-à-dire que l'UPAC arrête l'enquête mâchurée. Il n'y aura pas d'accusation. C'est un dossier clos. C'est terminé. Alors, Nathalie, d'abord, est-ce que c'était la bonne décision à prendre?
Ben, le dossier mâchurée, pour moi, c'était devenu une patate chaude pour l'UPAC et pour le DPCP. Non seulement c'était la chose à faire de mettre fin à l'enquête, mais c'est une décision qui aurait dû être prise depuis un bon moment. Trop gros, trop long, ça s'en allait dans le mur depuis longtemps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une source proche du dossier qui s'est confiée à Jean-Louis Fortin du Journal de Montréal. C'est publié ce matin. Alors oui, c'est effectivement la chose à faire.
Luc?
Ben oui, pas, aucun doute, mais lorsque Gaudreau a pris la parole, il a dit... les gens que nous attaquions ont des ressources infinies, sont prêts à aller de délai en délai, sont allés plusieurs fois à la Cour suprême. On ne peut pas y arriver. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas arrivés parce qu'ils n'ont pas trouvé la preuve hors de tout doute? Ou est-ce qu'ils n'y sont pas arrivés parce qu'ils s'en allaient vers des délais impossibles? La question n'est pas encore résolue et on ne le saura jamais. Et sais-tu quoi? Je pense, moi, que ça aurait peut-être été mieux qu'elle aille au bout, l'enquête. Parce que si l'enquête va au bout, Charest, il y a des accusations qui sont portées, il y a des documents qui sont déposés, la défense a un droit de réplique, et puis peut rationaliser les choses, les remettre dans leur cadre, leur contexte. Là, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va être, il va sans doute y avoir, dans les prochains mois, dans les prochaines années, des fuites. Un bout de preuve, un autre petit bout de preuve, un autre petit bout, un autre document. Puis ça va apparaître aux premières pages du Journal de Montréal, sans droit de réplique. Puis ça va faire son effet, ça va être spectaculaire. Moi, je pense que M. Charest aurait bénéficié d'un vrai procès.
Ben tu dis, Luc, que l'enquête aurait dû aller jusqu'au bout, mais quand t'as pas de preuves suffisantes, écoute, 300 témoins rencontrés, le DPCP a fait appel à deux comités indépendants pour valider si effectivement ce qu'ils avaient entre leurs mains était suffisant pour porter des accusations. De toute évidence, la conclusion, entre autres, un des deux comités présidé par un juge à la retraite de la cour d'appel, un des deux, en fait, les deux comités ont de toute évidence conclu que non, le dossier était pas assez solide. À un moment donné, tu peux pas t'acharner comme ça puis faire traîner des enquêtes pendant des années. 8 ans, c'était déjà trop long. On dit toujours que tout ce qui finit par traîner finit par se salir. Tout ce qui traîne finit par se salir.
Mais on ne sait pas. Ce que Frédéric Gaudreau, qui est le boss de l'UPAC, nous dit, c'est pas « je n'ai pas de preuves hors de tout doute raisonnable ». Il dit pas ça. Il dit... et je vais lire ses paroles là, pour être bien ça. Il demande au ministère de la Justice de revoir le fardeau de la preuve exigée par les enquêteurs avant de pouvoir porter des accusations.
Voyons donc, ça tient pas la route,
mais ça, c'est le Frédéric Gaudreau qu'on a vanté depuis des mois. Là. C'est le gars qui est...
T'es d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord avec ça. En ce moment, à cause du comportement en cours de Bibeau, c'est devenu absolument impossible de faire une preuve hors de tout doute. Alors, je vais donner des exemples. Quand Bibeau... tous les témoins, on l'a su. Quand en 2020, je me rappelle pas le mois, là, en 2020, Bibeau perd en Cour suprême. La Cour suprême permet de divulguer les documents de lancement de l'enquête contre lui, etc. Le mandat de l'UPAC contre lui qui a été émis en 2016. Et donc, la Cour suprême dit, OK, vous pouvez le diffuser. Toutes les grandes entreprises de construction, Génie Conseil, déclarent avoir fait des contributions, même dans certains cas, avoir reçu de la pression. Il y a une de ces entreprises-là qui dit avoir reçu des menaces pour faire des contributions. On ne dit pas qu'il y a un lien entre les contributions qu'ils ont faites et les contrats qu'ils ont reçus. Ce lien-là n'existe pas. On ne dit pas ça. Mais on dit qu'il y a eu ça. Il y a eu ce financement sectoriel. La réponse de Bibeau, des avocats de Bibeau, la réponse c'est non. Moi, j'ai été voir ces entreprises-là, ces chefs d'entreprise, mais je ne me suis pas adressé aux chefs d'entreprise en tant que chef d'entreprise. Je me suis adressé aux chefs d'entreprise en tant que personne. Ça donne la coïncidence, il est aussi le chef de l'entreprise.
Nathalie.
Ouais, mais tu peux dire ça jusqu'à demain matin, Luc, là, mais il n'y a pas de preuve. On n'a pas démontré qu'il y avait une intention criminelle dans tout le matériel qui était recueilli par l'UPAC. Alors, quelle est la réaction du commissaire actuel de l'UPAC, M. Godreau? C'est de dire, puisqu'on ne peut pas faire la démonstration, ben changeons la loi. Changeons le fardeau. C'est comme s'il demandait de changer le fardeau de la preuve. Excuse-moi, là, le droit criminel au Canada est basé sur une preuve hors de tout doute raisonnable. Et tu es en train de me dire que tu cautionnes cette façon, cette demande de l'UPAC qui dit, ben, savez-vous quoi? Assouplissons les lois pour faciliter notre travail, pour qu'on puisse peut-être mettre des gens en prison alors qu'on n'a pas tout le matériel pour les accuser aux criminels.
Non, tu peux pas c'est sûr que ça, libellé là. Comme ça, bien sûr que ma réponse, c'est non. Mais est-ce que des preuves circonstancielles? Par exemple, on a vu l'agenda de M. Charest. Il a été rendu public en 2013. Il a été rendu public par une fuite. La presse en a publié 50 pages. Dans cet agenda-là, c'est marqué à différentes heures de la journée. Financement sectoriel, Marc Bibeau, telle entreprise. Le premier ministre faisait le tour des bureaux avec Marc Bibeau. Marc Bibeau avait préparé l'agenda, faisait le tour des bureaux et allait demander de l'argent. Ça, c'est pas illégal, mais c'est poussé à sa limite l'idée du financement politique tel qu'inscrit dans la loi du Québec. Moi, je dirais, si cette entreprise-là a des contrats... Si cette entreprise a des contrats, si dans l'année en cours, par exemple, ou des contrats qui s'en viennent, le premier ministre s'en va pas dans le bureau demander de l'argent.
Nathalie.
Ouais. Ben, tu penses qu'un chef de parti, que Jean Charest est le seul chef de parti à rencontrer des propriétaires d'entreprises, des firmes de génie, des grands bureaux d'avocats, tu penses ça, Tom? Non. Désolée de te décevoir ce matin, mais Luc, la réalité était tout autre. Puis les modifications, il y a énormément de modifications qui ont été faites depuis la fameuse commission Charbonneau, là. On a créé le BIG à Montréal, justement, pour lutter contre la corruption. On a créé l'Autorité des marchés publics. L'UPAC a été créé, hein. Il est devenu même un corps de police indépendant. Et on a modifié la loi électorale au Québec. On est passé de 3 000 $ de plafond de contribution à 100 $. Maintenant, c'est les taxes et les impôts des Québécois qui permettent de financer en grande majorité à 75-80% les partis politiques. Alors, on a fait énormément de progrès. Le problème avec ce dossier-là, c'est que la police est partie avec un préjugé. Et ils se sont dit, il faut attraper, faut viser une grosse prise. Puis on prend pour acquis qu'il y a effectivement eu des gestes de corruption qui ont été posés. Fait qu'on prend pour acquis qu'il y a un crime qui a été commis. Alors, la police s'est dit, ben, à nous maintenant de démontrer que le crime a été commis. Alors qu'ils ont rencontré 10, 15,
oui,
20, 200, après 300 témoins. Si t'es pas capable de démontrer qu'effectivement, il y a eu un crime qui a été commis, à un moment donné, Luc, tu n'as d'autre choix que d'admettre que il faut que tu fermes le dossier.
Mais
la démonstration n'a pas pu être faite.
Juste peut-être pour amener ça dans une autre direction aussi, il faudrait bien qu'on parle des fuites. C'est-à-dire que c'est pas une petite fuite, là. C'est pas un document, c'est pas une partie de l'enquête.
Des organigrammes, des courriels, des chèques.
T'es capable d'en faire un livre, des farces, là.
Oui.
Alors tu dis, mais qui a eu accès à ça? Puis là, j'ai pas de réponse, puis je suis bien prudent là, pour pas avoir 23 mises en demeure, là, mais qui a eu accès à ça? Comment ça se fait qu'ils ont coulé ça? C'était quoi l'objectif? C'est un enquêteur frustré? C'est quelqu'un qui voulait faire dérailler l'enquête? Parce que Charest poursuit parce que ça s'est ramassé dans l'espace public. Mm-hmm. Être enquêté en soi, là, tu peux pas poursuivre. Tu peux faire l'objet d'une enquête.
Mais va savoir... T'as émis plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, c'est bon, quelqu'un de frustré, quelqu'un qui veut la gloire, ça existe, ça. Quelqu'un qui veut avoir la gloire de c'est moi qui a coulé les documents, ça, ben, la gloire auprès du journaliste. Il y a toutes sortes de possibilités. Moi, la possibilité à laquelle je pense, c'est ce que dit Nathalie tantôt, tout ce qui traîne se salit, c'est-à-dire, voyant que ça avançait pas, il a dit, ah là, ça va faire, je suis le héros du jour, moi je vais faire avancer ça, patard aux journaux, puis il a tout fait capoter.
Ben, il y a une enquête qui est en cours. D'ailleurs, un jour, on va finir par avoir le résultat de cette enquête. Ça dure quoi maintenant depuis, ça va faire 3 ans à l'automne 2022, cet automne que cette enquête du BEI est en cours. On ne sait pas où ils en sont. Alors oui, c'est vivement les conclusions de cette enquête pour qu'on en sache davantage. Mais il y a les fuites, mais il y a le fond de la question. Puis c'est le fond du dossier, selon moi, qui est aussi important que la façon dont toute cette information-là s'est retrouvée dans l'espace public. Parce que la fuite, ça peut pas devenir un prétexte. Ça peut pas être juste ça, là, l'argument. Est-ce qu'il y avait une cause où il n'y avait pas de cause pour porter des accusations? C'est toujours ça. Le code criminel est basé là-dessus. Là. C'est le hors de tout doute raisonnable.
Moi,
on ne peut pas faire de compromis là-dessus.
Ouais, c'est ce que je pense. Moi, je pense qu'effectivement, il n'y avait pas matière à accusation criminelle. Je pense ça. Je pense que Charest a poussé le financement sectoriel à un niveau où ça s'était jamais vu avant, avec des méthodes qui n'avaient jamais été utilisées avant, avec un homme d'une efficacité redoutable qui a une morale dont on pourra juger plus tard le futur, M. Bibeau. Tout ça, ça a créé du cynisme, puis ça a créé une façon de financer les partis politiques qui posait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais je pense pas qu'il y avait une cause à effet entre le don et le contrat.
Parfait. Au retour de la pause, deuxième sujet, c'est-à-dire le rapport du GIEC sur les changements climatiques. En gros, il y a des phénomènes irréversibles et les cibles avec lesquelles les politiciens se pavanent, ben on les atteint pas et ça fait en sorte que notre planète part à la dérive.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, un autre rapport dévastateur du GIEC sur les changements climatiques. C'est peut-être même le plus dur, là. À chaque fois, c'est assez sévère, mais celui-là, il est costaud. Et en gros, est-ce que la planète a perdu la bataille des changements climatiques? Luc?
Oui, largement. Le rapport du GIEC, il faut comprendre que le GIEC, oui, fait des rapports durs, mais c'est une organisation conservatrice. C'est-à-dire que ce sont des rapports beaucoup, beaucoup moins durs que ce que les militants en environnement, en écologie voudraient entendre. Au contraire, le GIEC produit généralement un consensus. La façon dont il fonctionne, là, c'est un consensus entre des experts qui sont situés un peu partout dans le monde. Sur ce rapport-là, il y a 300 experts qui ont contribué. Ils sont répartis dans 67 pays dans le monde. Ils s'appuient sur 3500 citations scientifiques récentes. Donc, c'est pas un rapport de militants, là. C'est pas Greenpeace, c'est le GIEC, tu sais, respect. Puis donc, ce qu'ils disent eux autres, c'est ça va pas bien pour quatre choses. D'abord, parce que les impacts en bas de 1,5 degré, nous sommes à 1,2 degré à peu près, les impacts sont beaucoup plus importants que ce qu'on avait cru qu'ils seraient. À 1,2 degré, on a vu des dômes de chaleur à 50 degrés, on a vu des villes comme Bagdad passant plus de 40 jours à 50 degrés de suite. On a vu des incendies comme on n'en avait jamais vu. Donc, à 1,2 degré, là, ça va plus mal compenser. La deuxième chose, c'est que le 1,5 degré, on pensait qu'on l'atteindrait après 2050, peut-être dans les scénarios les plus optimistes, proche de 2100. Et finalement, c'est beaucoup, beaucoup plus proche de nous. C'est à peu près dans 10 ans. Donc, d'ici 10 ans ou un peu après, on va avoir le 1,5 degré. Or, troisième constat, le 1,5 degré va faire extrêmement mal. Il va toucher entre 3,3 et 3,6 milliards de la population qui vont faire face à essentiellement des incendies, des canicules et des sécheresses. Et ça va avoir un impact énorme sur, d'abord, la famine, les guerres qui vont en ressortir, le prix des aliments, l'inflation à travers le monde. Dernier constat, après 1,5 degré, attachez vos tucs avec de la broche, parce que plus on se rapproche du 2 degré, plus l'impact va être sévère. Or, il pourrait se produire dans la deuxième partie du siècle, à peu près après 2050. Les enfants là que tu vois en poussette aujourd'hui, là, ou les enfants de 10 ans, poussette à 10 ans, là, vont avoir soit 23 ans, soit 33 ans en 2050. Si eux, ils vivent le 2 degrés après 2050, là, c'est un avenir très gris qui les attend.
On dit que ça prendrait 1,7 planète pour répondre aux besoins des 7,8 milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète. Là, c'est donc dire à quel point il y a une pression très, très forte qui s'exerce sur la planète, puis ça date pas d'hier. Là, ça fait 30 ans, en fait, depuis le sommet de Rio en 1992, là, ça fait 30 ans, on a émis toute la planète, là, tous les habitants de la planète, on a émis 65% de plus de GES. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Claude Villeneuve qui signe un article dans Le Soleil ce matin. Claude Villeneuve, qui est associé à la chaire en développement durable à l'Université de Chicoutimi. La moitié de la planète, tu y référais, Luc, la moitié de la planète vit dans des zones en danger. C'est énorme, là, c'est énorme. Est-ce que les carottes sont cuites? Les carottes sont presque cuites. En fait, l'espoir que nous donnent les experts, les 67 experts, qui ont signé le rapport de 3450 quelques pages, c'est de dire Oui, il y a des batailles qu'on a déjà perdues. Par contre, notre l'espoir réside dans notre capacité à nous adapter au tort qu'on a déjà fait à l'environnement. Alors, le mot adaptation, c'est le mot clé pour tenter non pas de sortir de cette crise, mais tenter de minimiser ses impacts sur l'ensemble des êtres humains de la planète. Le grand patron de l'ONU a fait une déclaration qui m'a frappée, Antonio Guterres. Il a dit « J'ai vu de nombreux rapports scientifiques dans ma vie, mais rien de comparable à celui-ci. » Tu l'as dit, Paul, là, c'est pas la première fois que le GIEC produit un rapport, c'est son 6e rapport. Mais cette fois-ci, c'est le rapport celui qui frappe, là, celui qui est censé nous donner un état de, afin de nous réveiller. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que depuis 30 ans qu'on le dit, qu'on le répète, avec le GIEC en plus qui en ajoute une couche, on dirait que c'est comme, non, c'est pas encore assez, le danger n'est pas encore assez imminent. Alors que durant la pandémie, qu'est-ce qu'on a fait durant la pandémie? Ben, la planète s'est mobilisée, puis on a développé un vaccin en quelques mois. Qu'est-ce qu'on fait actuellement face à la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine? Ben, les pays de l'Occident, de l'OTAN se mobilisent. On est incapable de faire ça pour l'environnement. C'est ça qui est assez fascinant. Mmh. C'est comme si on attendait que tout soit, qu'on soit mort, finalement.
Ben, en tout cas, on va pas mort, mais on va être bien cuit.
On sera pas fort. Hein?
Ouais, c'est ça. Ajouter quelque chose. Tantôt, je parlais avec Louis-Gilles Franqueur, qui a été journaliste au Devoir, le dossier environnement. Il a été VP au BAP aussi. Et il publie un livre qui s'appelle « La caution verte » et qui, dans le fond, analyse le poids politique et réel d'un ou d'une ministre de l'Environnement dans un gouvernement par rapport aux autres. Puis il dit, dans le fond, que ce n'est qu'une caution parce que le ministère n'a pas de poids ou le ministre n'a pas de poids par rapport à des, par exemple, ministres économiques. Là, je vous t'entends.
Ben oui, absolument, absolument. Bon, ça fait plusieurs fois que M. Charette prend des décisions surprenantes. La dernière, ça a été sur le nickel. Il a fait des déclarations sur le GNL Québec à un moment donné en disant, oui, mais ça pourrait être bon. Après ça, la déforestation. Et à chaque fois, il est off par rapport à sa mission. C'est-à-dire, il est en dehors de son champ de compétences qui est l'environnement. Il parle du développement économique du Québec. Ce qu'il devrait faire, c'est dire, je vais laisser quelqu'un parler de développement économique, puis moi, je vais être l'ombudsman de la nature. Puis je vais dire, attends, là, c'est correct. La décision finale, elle a été prise qu'on s'en va par là pour le développement économique. D'accord, mais moi, je suis pas d'accord. Pas d'accord pour des raisons environnementales. Et au Québec, on est particulièrement pas bon dans le contrôle des GES. Évidemment que vous allez entendre le ministère dire le contraire. Pourquoi? Parce qu'on chauffe l'hydroélectricité. D'accord, on a hérité de l'hydroélectricité, c'est parfait. Mais à part ça, on fait quoi? À part ça, là, regarde, depuis 1990, on avait un objectif de réduire nos gaz à effet de serre. On les a réduits un peu jusqu'à à peu près 2010, en grande partie parce qu'on a délocalisé notre production. Tout ce qu'on porte comme linge, tout ce qu'on achète comme objet est produit ailleurs, c'est plus calculé dans nos GES. Alors là, évidemment, nos GES ont diminué un peu. Et depuis, on a fait quoi? On a augmenté notre consommation, augmenté le poids des véhicules, augmenté le nombre de kilomètres parcourus. Et là, on a commencé à refaire augmenter nos GES. Hey, en pleine lutte au gaz à effet de serre, on augmente à chaque année.
Nathalie.
Mais sur le ministre, j'ai envie de dire, il y a le ministre, c'est le ministère. C'est pas un poste très sexy, là, être ministre de l'Environnement, puis de j'ai dans tous les gouvernements, là, depuis que le ministère de l'Environnement est créé. Je dirais, il y a une exception, c'est peut-être Clifford Lincoln, qui était un ministre de l'Environnement extrêmement apprécié dans le gouvernement de Robert Bourassa, mais ça a été toujours difficile pour tous les ministres de l'Environnement qui se sont succédés. Il y en a quand même qui se sont démarqués, là. Je pense entre autres à Lynn Beauchamp. Il y a aussi, il y a d'autres ministres qui ont réussi à se, mais c'est difficile parce qu'il y a le ministre et le ministère. Le ministère s'est vu dans un gouvernement comme un fauteur de troubles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues, là. Et donc, il y a cette perception-là. Mais en même temps, je trouve ça triste parce que cette responsabilité des changements et de l'adaptation climatique, ça devrait reposer non pas seulement sur un ministre, mais sur tout un gouvernement. D'ailleurs, arrêtons de parler de changement climatique, puis commençons à parler comme on le fait en France, entre autres, d'adaptation climatique. Mais Louis-Gilles Franqueur a raison. Le poids politique d'un ministre de l'Environnement dans un gouvernement.
Quand il s'assoit à table là, avec, d'un côté, le ministre de l'Économie, des Finances, un PM qui est plus porté sur la création d'emplois, puis qui dit
voilà.
Ce projet-là, moi, je suis pas d'accord pour des raisons environnementales. Faut pas. C'est un poids relatif, là.
Oui, c'est un poids relatif, effectivement. Par contre, quand tu entends Stephen Guilbeault, qui est devenu ministre responsable des changements climatiques à Ottawa, et puis même lui, là, avec toute l'expertise, toute la détermination qu'il possède, il doit se battre contre des décisions prises par son gouvernement. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est que c'est un ministre qui est toujours pris entre l'arbre et l'écorce.
Mm-hmm.
Et puis des fois, tu dis l'environnement pourrait être un petit peu plus conciliaire, parce que le développement durable, c'est ça, la conciliation des intérêts économiques, sociaux, environnementaux. Mais on n'arrive pas, on arrive difficilement, c'est-à-dire, peut-être pas, on arrive difficilement maintenant faire la conciliation de ces trois?
D'abord parce que M. Legault s'en est toujours... c'est totalement été indifférent à la question environnementale, mais aussi et surtout parce que Jarrett est tout seul. Tu faisais le parallèle avec Guilbeault. Guilbeault, à Ottawa, il y a Wilkinson, Guilbeault, Freeland qui y croient tous les trois beaucoup. Ici, au Québec, on n'a personne qui y croit puis quelqu'un qui a été nommé pour en parler. C'est pas comme ça qu'on va changer les choses.
On va arrêter de taper sa tête du ministre de l'Environnement du Québec, le pauvre gars, le pauvre diable. Ah, écoute, il est tout seul à...
Il est dans une situation difficile, j'en conviens.
Ben oui.
On s'arrête là-dessus. On vous retrouve demain, il est 9h07.
C'est 23.
Recule un peu, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse. Crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.